les podcasts de Radio Courtoisie. Douze Traqués, une série d'Emmanuel Darle, société de contrôle quand le pouvoir change de visage.
Pourquoi acceptons-nous si facilement d'être surveillés au nom de notre sécurité ? Pourquoi confions-nous nos décisions à des algorithmes opaques ? Dans cette série, en 7 épisodes, j'enquête sur l'émergence d'une société où les données et les systèmes numériques influencent de plus en plus nos comportements. Entre analyses expertes et exemples concrets, je décrypte les mécanismes du contrôle contemporain en posant une question essentielle : sommes-nous encore auteurs de nos vies ? Une enquête lucide pour comprendre et reprendre la main. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons notamment explorer la société de contrôle quand le pouvoir change de visage à travers deux philosophes essentiels, Michel Foucault et Gilles Deleuze. Nous parlerons d'IA bien sûr, nous parlerons de données personnelles, d'algorithmes, de surveillance numérique, de biométrie, mais surtout et avant tout, les fondements philosophiques en posant une question essentielle, sommes-nous plus libres qu'il y a 50 ans ? Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Pavan. Bonjour Vincent.
Bonjour Emmanuel.
Je vous propose en préambule une petite expérience de pensée. Imaginez qu'à partir de demain, quelqu'un vous accompagne partout. Il est là quand vous quittez votre domicile. Il sait à quelle heure vous vous levez. Le trajet que vous allez pour aller travailler. Le café où vous vous arrêtez. Les magasins que vous fréquentez. Les produits que vous regardez. Et surtout, et c'est là que ça devient sérieux, il est capable de relier toutes ces informations entre elles. Au bout de quelques semaines, il commence à vous connaître. Au bout de quelques mois, il anticipe et manipule vos comportements. Mieux que votre conjoint, mieux que vos propres parents. Ce que je viens de décrire n'a rien de futuriste. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, un fantasme d'auteur dystopique, non. Ce n'est même pas un projet à venir. Ou quelque chose qu'on nous prépare secrètement pour dans 10 ans. C'est tout simplement le fonctionnement ordinaire de notre environnement numérique quotidien. Nous produisons en permanence des traces à chaque recherche, à chaque clic, à chaque déplacement. Ces traces sont collectées, croisées, analysées et parfois revendues comme une vulgaire marchandise, comme si nous n'étions que ça, du minerai à extraire. La question que nous pouvons nous poser, comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce vraiment nouveau ou cette situation avait-elle été pensée, prévue même bien avant l'apparition d'Internet ? Vincent.
Oui Emmanuel, pour reprendre un petit peu ce portrait robot que tu traces de cet objet, ce il que tu as dit qui nous accompagne partout, qui sait un petit peu tout ce qu'on fait, qui nous oriente dans notre vie, dans nos décisions quotidiennes, c'est un petit peu le portrait d'un, on pourrait dire, d'un téléphone portable aujourd'hui. Bien évidemment, et qui est ce qu'on appelle donc dans le vocabulaire philosophique, notamment chez Giorgio Agamben, un dispositif. Et justement, l'étude des dispositifs de pouvoir, pourrait-on rajouter, qui sont de plus en plus aujourd'hui des technologies, bien sûr, c'est exactement vouloir étudier comment le pouvoir agit concrètement par ce qu'on appelle une microphysique du pouvoir. Et dans les philosophies et les philosophes que tu as annoncés, que ce soit Gilles Deleuze ou Michel Foucault, qui ont été des grands philosophes du pouvoir justement à la fin du XXe siècle, eh bien, ces dispositifs et ces outils technologiques, cette microphysique du pouvoir, est-ce qu'il faut étudier en fait pour comprendre justement comment le pouvoir agit et aujourd'hui nous emprisonne ? Autrement dit, Michel Foucault, Gilles Deleuze et bien d'autres en fait vont abandonner ce qu'on appelle les grands universaux pour comprendre la structure du pouvoir. Autrement dit, l'idée que le pouvoir est un pouvoir pyramidal qui part du haut vers le bas, donc qui est décidé par les grands hommes ayant les moyens effectivement d'agir à travers une constitution, à travers la création d'une administration judiciaire, la création de prisons, de grands textes de loi. Donc ces grands universaux sont abandonnés par les philosophes du XXe siècle pour comprendre justement le pouvoir. Il est plutôt étudié dans sa microphysique, c'est-à-dire tout simplement ces actes du quotidien avec lesquels on vit tous les jours. Et c'est parce qu'on va décrypter et déchiffrer justement ces dispositifs tels que les téléphones portables, tels que l'utilisation d'Internet, qu'on va comprendre justement ce que veut le pouvoir à travers les moyens sur lesquels en fait il s'exerce au quotidien sur les personnes.
Merci Vincent. Et je crois que c'est le meilleur point de départ. Effectivement, si nous voulons comprendre les technologies d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre une chose simple, mais que notre époque, obsédée par la nouveauté, a soigneusement oublié, le pouvoir n'a pas toujours fonctionné de la même manière. Pendant très longtemps, le pouvoir était visible. En fait, il s'exerçait par la force, sans détour, sans pudeur. Le roi faisait par exemple la loi, le seigneur punissait, le juge condamnait, l'armée réprimait, et au moins c'était honnête. On savait à qui on avait affaire. Et le pouvoir devait impressionner, il devait aussi montrer physiquement qu'il était le plus fort. Puis à partir du 18e siècle, quelque chose a changé. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque les grandes démonstrations de force disparaissent peu à peu. On ne cherche plus simplement à punir, on cherche, et c'est bien plus ambitieux, à prévenir, organiser et normaliser, à rendre les individus plus utiles, plus efficaces, plus prévisibles. En bref, un peuple, en somme, qu'on peut gérer comme un cheptel.
Oui, tout à fait. Ce que tu décris, Emmanuel, c'est exactement donc ce que Michel Foucault appelle la tradition juridico-institutionnelle du pouvoir, qui est une société de souveraineté, donc dans laquelle des sujets en fait sont liés les uns aux autres par des pouvoirs hiérarchiques. Et toute la mécanique et la dynamique du pouvoir à l'époque, c'est de faire en sorte que eh bien, ce pouvoir hiérarchique exercé par les uns sur les autres ne soit pas trop grand et soit réglé donc par des thèmes de droit, des sujets de droit donc, entre les personnes. Et dans ce cadre-là, il s'agit de priver, d'interdire, donc de punir chaque fois qu'une loi est transgressée. La loi s'énonce sur le mode de ne pas faire quelque chose, justement, tu ne tueras point. Qui est un exemple. Et si jamais cette loi est transgressée, alors il faut montrer, on est dans la société du montrer en fait, eh bien, qu'une punition doit être établie pour rétablir justement l'ordre sur lequel eh bien, veut s'appuyer le pouvoir. Donc c'est des sociétés ordonnées dans lesquelles la transgression doit appeler effectivement une punition spectaculaire pour que l'on puisse bien comprendre qu'on ne peut pas transgresser le pouvoir. Et donc c'est ce que va justement déconstruire quelque part Michel Foucault dans son ouvrage de 75, Surveiller et punir, où il montre bien, comme tu l'as dit, qu'au XVIIIe siècle, en réalité, on passe d'une société de la souveraineté à ce qu'on appelait la gouvernementabilité. On passe d'une société donc du montrer la force, montrer la puissance, à une société du voir, qui est celle de voir comment les individus se comportent pour pouvoir mieux justement les façonner. On passe justement d'une société du montrer à une société donc du panoptisme foucauldien, donc très important. Effectivement, donc dans les systèmes souverains politiques, comme je le disais, le monarque est lié à ses sujets donc par des rapports de droit, et ces rapports de droit doivent limiter le pouvoir des uns par rapport aux autres, tandis que dans les systèmes dits gouvernementaux, donc qui arrivent donc au moment de la révolution économique au XVIIIe siècle en Europe et en Occident, le pouvoir est lié à des individus donc qui forment une population par des rapports de discipline, justement, qui cherchent à contraindre et à assujettir les individus, comme tu l'as dit, à être le plus docile et le plus productif possible.
Oui, tout à fait. Pour l'expliquer, Foucault s'appuie sur un projet imaginé il y a deux siècles plus tôt par un philosophe anglais, Jeremy Bentham. Bentham imagine en fait un bâtiment circulaire tout autour de lui avec des cellules et au centre une tour et depuis cette tour un gardien qui observe chaque cellule. Mais les détenus, eux, ne savent jamais s'ils sont observés. Ils voient la tour, ils savent qu'elle peut être occupée, ils n'en sont jamais certains en fait. Et c'est là toute la finesse, à la fois perverse, il faut le dire, du dispositif. Parce que le détenu ignore qu'il est surveillé, il finit par se comporter comme s'il était en permanence. Il n'est donc plus nécessaire de surveiller tout le monde tout le temps. Et ça représente aussi un gain personnel, hein, puisque le contrôle, l'individu se le colle lui-même, gratuitement, avec zèle, le rêve de tout geôlier, quelque sorte. Et pour Foucault, le panoptique n'est pas simplement un projet de prison, c'est une métaphore sur l'évolution de nos sociétés. Et le même principe se retrouve méthodiquement dans presque toutes nos institutions. À l'école, on évalue, on classe, on compare. À l'usine, les horaires, les cadences, la hiérarchie, à la caserne, à l'hôpital, dans les administrations, partout, le pouvoir ne se contente plus de sanctionner, il fabrique des individus disciplinés. Et c'est peut-être là une idée fondamentale, et elle mérite qu'on s'y arrête. Le pouvoir moderne ne fonctionne plus simplement parce qu'il punit, il fonctionne parce que nous ajustons, tout seul, consciemment ou inconsciemment, sans qu'on nous le demande, nos comportements au regard de ce que nous imaginons poser sur nous. Et c'est là que Foucault, mort en 1984, devient alors une actualité presque embarrassante. Car même sans Internet, même sans smartphone, sans une seule notification, il avait déjà compris l'essentiel. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui contraint à coups de matraque. c'est celui qui nous amène, poliment, gracieusement, à nous surveiller nous-mêmes.
Oui, tout à fait, Emmanuel. Et donc, il y a un aphorisme célèbre chez Foucault, justement, pour parler de cette transition du pouvoir, donc de l'État souverain vers l'État gouvernemental, qui est la chose suivante. Donc, l'État renonce donc au pouvoir de faire mourir et de laisser vivre, donc il y a l'État souverain où on fait mourir au sens où on punit, à un État dans lequel effectivement on fait vivre et où on laisse mourir en réalité. Donc il y a ce renversement du pouvoir avec effectivement un paradigme panoptique qui est plus qu'une métaphore, qui est un paradigme, c'est-à-dire qu'effectivement le panopticon de Bentham devient en réalité un exemple généralisable sur lequel va s'appuyer l'État pour construire toutes ses relations aux individus. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, on va avoir, donc la prison est un exemple d'institution où on enferme les gens et où on les prend donc tels qu'ils sont pour ensuite vouloir les réformer. C'est toute cette idéologie qu'on a encore aujourd'hui de la prison, qui n'est pas seulement un endroit où on doit punir, mais un endroit où on doit réformer, un endroit où les gens doivent se transformer. Raison pour laquelle, encore récemment, il y a eu à l'Assemblée nationale des débats sur faut-il une perpétuité ou non pour les violeurs d'enfants, ce à quoi des membres de la gauche ont dit que la perpétuité ne servait à rien, puisque s'il y a une perpétuité, en fait, il n'y a plus d'objectif de réformation en réalité pour les gens qui sont fermés, puisqu'ils sont fermés pour toujours. Et par conséquent, la perpétuité, en fait, est comme une forme de négation, justement, de la surveillance et de la volonté qu'on a de transformer les gens. Donc, effectivement, on arrête les punitions pour mettre les gens dans des institutions fermées dans lesquelles on va voir les discipliner, c'est-à-dire faire en sorte que leur être, leur nouvelle identité, c'est des processus de subjectivation donc, qui sont à l'œuvre, obéissent à une certaine volonté de l'État, donc de les rendre, comme on l'a dit, obéissants et productifs. Donc, évidemment, il y a des lieux d'enfermement qui sont l'école, comme tu l'as dit, qui sont des lieux d'apprentissage, qui peuvent être l'armée aussi, à l'époque où il y avait la conscription qui existait encore. Et à chaque institution fermée correspond effectivement un but de vouloir créer l'école, donc tout simplement des gens productifs, l'armée de créer des gens qui sont patriotes, l'hôpital de créer des gens en bonne santé, l'hôpital psychiatrique de créer des gens qui soient avec des comportements, on va dire, normaux, etc. etc. Et c'est là en fait où Deleuze va apporter en réalité son... ces améliorations par rapport à Foucault en disant oui, effectivement, le but de la société, c'est toujours de faire des gens qui sont, dociles et productifs, mais simplement les moyens pour atteindre ce but vont changer. Il y a moins de centres qui vont être des centres fermés, en fait. Il y a moins de moules qui vont être faits, au sens où, effectivement, quand on sort de l'école, on sort avec un certain programme, avec donc certaines compétences qui sont bien spécifiées. En fait, tout ça va être remplacé par, quelque part, des actions continues. Voilà. Tout au long de la vie, où on va chercher à faire en sorte que une fraction d'individus, c'est ça qui est important aussi, donc on en reparlera de la d'individuation chez Deleuze et de la modulation chez Deleuze, en fait, une fraction d'un individu va être transformé par les endroits par lesquels il va passer continuellement dans la journée, effectivement, de chez son médecin à l'école, de l'école quelque part, effectivement, à un autre hôpital ou à un lieu de loisirs où lui-même va apprendre à transformer son corps et ainsi de suite, les loisirs étant effectivement également investis dans la pratique de transformation des corps. Et tout ça, bien sûr, fait que l'illusion de liberté s'installe parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on n'est plus enfermé dans une école, dans une prison, dans un hôpital, dans un service militaire, mais qu'on passe continuellement d'un endroit à un autre. Donc, il y a une forme de fluidité qui s'installe, qui laisse penser que les individus sont libres, sauf que chaque fois qu'ils sont dans un endroit, en fait, des contraintes s'imposent à eux. Donc, en réalité, ce qui se passe, pour résumer, on peut dire que Gilles Deleuze a intégré la notion de cybernétique en réalité à la notion de discipline chez Foucault pour donner tout simplement une société qui n'est non plus une société disciplinaire mais une société du contrôle.
Les podcasts de Radio Courtoisie.
Merci Vincent. Effectivement, en 1990, Gilles Deleuze a publié un texte très court, un post-scriptum sur les sociétés de contrôle. Et ce texte est vraiment devenu l'une des analyses les plus commentées pour comprendre notre époque, puisqu'il va y formuler une idée d'une simplicité déconcertante. Il va dire en substance que le pouvoir n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Et ça sera là la dernière métaphore qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous entrons dans une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir qui n'a plus besoin de murs, comme tu l'as très justement dit, plus besoin de lieux fermés, plus besoin d'une autorité visible, d'un uniforme, d'une porte, trop lourd peut-être aussi, trop cher, hein, trop voyant. Le contrôle devient, lui, mobile. Il nous accompagne dans nos déplacements, dans nos échanges, dans notre consommation, et il ne nous lâche plus finalement. Il s'adapte en permanence à nos comportements. Et c'est précisément ce que Deleuze appelle le passage du moule à la modulation. Et cette distinction, je pense, est fondamentale, puisque le moule est identique pour tous. C'était, en un sens, presque égalitaire, aussi grossier fut-il, la modulation, elle, s'ajuste en permanence. Elle évolue, elle se transforme, elle s'adapte aussi à chaque individu, comme un costume sur mesure, en fait. Et quand on regarde le monde numérique, notamment de nos jours, on retrouve cette logique absolument partout. Et quand je dis vraiment absolument partout, c'est vraiment partout. Prenons le smartphone, cet objet que nous gardons en permanence sur nous, collé à la main. Il nous rend d'immenses services, c'est vrai, mais il permet par exemple de communiquer, de se déplacer, de payer, très bien. Mais il constitue aussi une source permanente d'informations sur nos habitudes, nos déplacements, nos usages, un mouchard de poche, clairement, si l'on ose le mot, et même un mouchard qu'on a payé nous-mêmes, qu'on recharge tous les soirs avec amour et pour lequel, finalement, on fait la queue devant les boutiques à chaque nouvelle version. Et c'est là peut-être le tour de passe-passe parce que personne ne nous oblige à l'utiliser. Nous le faisons librement et c'est précisément peut-être ce qui rend cette nouvelle forme de pouvoir tellement plus discrète que les précédentes. Elle ne se présente jamais comme une contrainte. Elle se présente presque comme un service, comme un cadeau. Autrement dit, ce n'est plus seulement nous qui nous adaptons au système, c'est le système qui s'adapte à nous. Et il le fait mieux que nous l'aurait jamais fait le plus zélé des fonctionnaires de l'ancien régime. Et c'est exactement cela, en fait, la modulation. Alors, si le contrôle devient terriblement difficile à percevoir, trop grossier, trop 20e siècle, qui consiste en fait à orienter discrètement les possibilités qui s'offrent à nous, c'est précisément aussi la grande différence avec le panoptique de Bentham. Le contrôle, aujourd'hui, devient invisible parce qu'il se confond avec le fonctionnement ordinaire des services que nous utilisons chaque jour, sans même y penser, entre le café du matin et la lumière qu'on éteint le soir. Vincent, que penser sur cette nouvelle forme de pouvoir aujourd'hui dans notre quotidien ?
Quel est exactement ce qu'Étienne de la Boétie appelait effectivement la servitude volontaire. C'est-à-dire que il y a une forme de quelque part de confort finalement où on va mêler à la fois le désir et l'injonction et on va faire en sorte que les individus en fait tout simplement répondent à des désirs qui ne sont pas les leurs mais qu'on va effectivement faire croire comme étant les leurs. Je prends un exemple très simple qui est justement ce passage du moule à la modulation qu'on a eu dans la réforme de la formation à l'école. Avant, il y avait ce qu'on appelait les disciplines, c'est-à-dire les filières. Il y avait la filière S, la filière donc scientifique, économique, etc. Et c'était le même moule justement pour tout le monde, qui avait un peu changé de nom, mais qui restait effectivement totalement contraint et totalement rigide quelque part. Et puis on est passé aujourd'hui à l'idée que ces filières ont disparu. C'est-à-dire que on a l'illusion quelque part d'être libre de choisir ce qu'on va apprendre et comment on va l'apprendre. C'est-à-dire que on peut choisir justement ce qu'on appelle des modules justement d'enseignement et ces modules d'enseignement. Alors finalement, ils sont quand même là imposés par. Mais on a l'impression d'avoir la liberté de les choisir. Le moule peut changer de forme effectivement comme on veut. On peut prendre une option de mathématiques et d'histoire-géo en même temps, alors qu'avant c'était pas possible. On faisait soit des sciences en gros, soit des lettres, soit de la gestion et de l'économie, etc., etc. Et donc en fait, on nous laisse croire que l'illusion du choix, en gros la couleur des chaînes quelque part, eh bien ferait qu'il n'y a plus de chaînes. Quand bien même tout ça participe bien sûr de cette servitude volontaire qu'on va rendre désirable en laissant croire quelle est la possibilité en fait de la liberté. Donc c'est dans le choix qu'on va vous donner, la possibilité des choix qu'on va donner, même si ces choix sont contraints, qu'on va vous faire croire en fait que vous êtes libre et qu'on va vous amener donc tout simplement là où on veut vous amener en réalité.
La véritable question, au final, n'est plus « suis-je libre de choisir ?» elle devient « dans quel environnement ce choix exerce-t-il ? » Oui. Qui a construit cet environnement ? Selon quels critères ? Dans quel but ? Le mien ou celui de quelqu'un d'autre ? Parce que finalement, entre interdire un comportement et construire pierre par pierre un environnement qui le rend progressivement improbable, la différence, elle, est réelle. Et personne ne pourra dire le contraire, d'ailleurs. Le résultat, lui, peut être étonnamment le même, quelque part.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée que le moule devient une modulation, c'est-à-dire a l'air de changer en permanence, qui laisse l'illusion de la liberté. Hein. Donc, ce que nous disait Deleuze dans ce fameux texte que tu as évoqué donc en 90, ça nous disait les enfermements, donc les disciplines foucauldiennes, donc sont des moules, des moulages distincts, mais les contrôles sont une modulation, donc comme un moulage autodéformant. C'est ça, en fait, qui est important, c'est cette idée d'autodéformant qui va changer sans arrêt, qui changerait donc continuellement d'un instant à l'autre, nous dit Deleuze, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à un autre. Et donc, c'est ça, le moulage, donc c'est cette idée que la caserne, l'usine, l'école, ce que je disais, donc avec ces filières, va être un cadre strict dans lequel vous allez devoir vous conformer, vous, individu, et la modulation, donc, eh bien, c'est un contrôle tout simplement continu, variable, qui a l'air d'être auto-adaptatif, où à chaque fois, justement, dans un esprit cybernétique, on intègre une nouvelle information pour vous faire changer, justement, un petit peu de direction, le but du jeu étant néanmoins de vous amener exactement là où on doit vous amener.
Cette transformation a une autre conséquence aussi, plus profonde peut-être, parce que curieusement, personne ne prend la peine de nous l'expliquer dans les brochures publicitaires des géants numériques. Si le pouvoir agit désormais à partir des données, il ne peut plus se contenter de voir des personnes. Il doit les découper, les traduire en informations exploitables et comme on débite finalement une bête en morceaux vendables, pardonnez la crudité, mais c'est exactement ce dont il s'agit. Ce que Deleuze entrevoit lorsqu'il introduit une notion devenue célèbre, celle du individuel. Pendant des siècles, on nous a présenté l'être humain comme un individu et le mot mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce que pour une fois qu'un mot veut dire quelque chose, un individu, celui qui ne se divise pas, une personne avec une histoire, une personnalité, des défauts, une singularité, qu'aucune administration n'aurait songé à débiter en tranche. Mais dans une société où les décisions reposent de plus en plus sur des calculs automatisés, cette singularité s'efface. Sans tambour ni trompette, nous devenons des profils, des scores, des catégories, des probabilités. Bienvenue au club, vous n'êtes plus une personne, vous êtes juste une ligne dans un tableur Excel. Quelque part, dans un centre de données qu'on appelle pudiquement le cloud, comme si mettre un nuage sur l'affaire la rendait plus légère. Autrement dit, nous ne sommes plus des individus, nous devenons des individuels. Des êtres qu'on peut fractionner, disperser, recomposer selon les besoins de celui qui calcule et qui généralement ne nous demande même pas notre avis. Vincent, je crois que c'est probablement l'une des intuitions les plus puissantes de ce texte qui date de 1990. À l'époque, je le rappelle, Internet n'existait pas, les smartphones n'existaient pas, le GPS, n'en parlons pas. Vincent.
Oui, effectivement. Donc, ça part cette notion de individuation, donc de individuel, en fait, quelque part d'une critique de Gilbert Simondon, qui est un philosophe qui va inspirer beaucoup Deleuze, justement, sur ce qu'on appelle l'illéformisme. C'est-à-dire que chaque, en ontologie, hein, on dit que chaque chose est composée d'une matière et d'une forme, avec une unicité, justement, une connexité dans la chose en question. Et un petit peu comme pour l'atome, qui était cette plus petite partie indivisible, en fait, on considérait que l'être humain, au fond, dans un peuple, dans une population, était cet élément indivisible, en fait, à partir duquel on travaillait. Et donc, à chaque fois qu'on enfermait, nous disait Michel Foucault, un individu dans une institution, eh bien, c'était pour le transformer en entier. C'est-à-dire qu'on le prenait tel qu'il était. Alors que, quelque part, il va y avoir chez, justement, Deleuze, en fait, cette idée forte qu'on peut rapprocher métaphoriquement de l'atome, en disant, mais au fond, cet individu, il est quand même divisible. Il a un corps, il a un esprit, et le corps lui-même est divisible. L'esprit lui-même est divisible en différentes unités. Et d'ailleurs, il y a chez l'homme cette capacité à élaborer une pensée, une phénoménologie pour être relié à son environnement. Et au fond, chacune de ces parties de l'homme peut être justement sujet à une modulation, justement, à quelque part une nouvelle forme. Et donc, c'est ce que va très bien comprendre Gilles Deleuze. Il va très bien comprendre que les modulations n'agissent pas sur les individus en entier, mais sur une partie d'entre eux à chaque fois. Ce qui fait qu'en réalité, à chaque heure de la journée, selon la situation dans laquelle se trouve justement cet individu, entre guillemets, plutôt ce dividu, on va dire comme ça, eh bien, on peut agir sur une partie de lui, à nouveau, quand il est à l'école, quand il est au bureau, quand il est dans ses loisirs, quand il est à l'hôpital ou chez son médecin. Et chaque partie va être fractionnée, effectivement, et même quand il est malade, est-ce qu'il s'agit d'une maladie chronique, d'un diabète, d'une fracture, etc., etc. Et donc, en fait, on va le découper en morceaux, comme tout simplement une machine. Et puis, on va pouvoir, s'il le faut, changer ou influer sur chacune d'entre elles. Ce qui fait que l'homme n'est plus réduit à un numéro administratif qui le pose en tant qu'individu, mais à des codes, c'est ce que nous dit Gilles Deleuze, qui contiennent de l'information. Et en fait, chaque code contient finalement une identité qui va être en même temps une information sur ce individu. Justement, la notion d'information est très intéressante à ce niveau-là, puisque l'information, c'est l'information, c'est ce qui n'a pas de forme finalement, et ce qui fait que cette forme peut être changée ou fractionnée en fait selon les besoins de la cause. Donc le individuel et effectivement la modulation, qui sont les deux concepts fondamentaux de Gilles Deleuze dans ce texte-là, permettent de comprendre justement comment on passe d'une société disciplinaire qui enferme des individus pour les transformer d'un seul tenant à chaque fois en des fractions effectivement qu'on peut recomposer un petit peu à chaque fois et qu'on peut moduler effectivement à chaque fois, avec donc beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus, quelque part, de souplesse sur les processus donc, de pouvoir en cours.
Merci Vincent. Ce changement n'a rien d'anodin, rien du tout. Lorsqu'un être humain est réduit à un ensemble de données, il devient plus facile à comparer, à classer, à trier, à calculer et, disons le mot puisqu'il faut bien le dire un jour, à manipuler. Nous sommes plus complexes que notre histoire de navigation. Nous sommes plus complexes que notre dossier bancaire, que nos clics, qu'un modèle statistique bâti sur des comportements. Ce sont précisément ces modèles qui éclairent de plus en plus, orientent les décisions qui nous concernent. Et c'est peut-être l'une des transformations les plus profondes de notre époque. Nous passons d'une société qui connaissait des individus à une société qui calcule des profils. Une nuance ? Non. Un basculement de civilisation. Rien de moins. Pour conclure cet épisode, je pense que nous avons vu que le pouvoir ne disparaît jamais. Il n'a jamais disparu. Il n'a même pas pris de vacances, si j'ose le dire. Il se transforme toujours dans le même sens, vers plus de discrétion, vers plus de perversion, vers plus de retenue. Hier, il s'exerçait à travers des institutions visibles qu'on pouvait voir, regarder en face, contester aussi. Parfois même renversés, comme nous les avions déjà renversés. Aujourd'hui, il emprunte des chemins de données, des algorithmes, des calculs, des chemins qu'on ne voit pas, qu'on ne montre pas, et sur lesquels, curieusement, personne n'a jamais voté. Nous continuons de nous sentir libres, bien sûr. C'est même le tour de force. Mais nous évoluons dans des environnements numériques qui apprennent à nous connaître, anticipe nos comportements et oriente patiemment nos décisions, avec notre reconnaissance en prime, puisqu'on appelle ça un service. Alors, une dernière question pour conclure, elle n'est pas rhétorique, sur quoi repose exactement ce nouveau pouvoir ? Quelle matière première de tous ces calculs, de tous ces modèles, de tous ces algorithmes qui nous présentent comme la modernité incarnée ? La réponse et d'une simplicité presque insultante. Nous la produisons tous les jours, consciemment, gratuitement. Et c'est peut-être aussi ça le coup de génie. À chaque clic, à chaque recherche, à chaque déplacement, ce sont nos données. Ce sont les nôtres, ce sont les vôtres. Et pourtant, ce sont rarement nous qui en tirons profit. La question est de savoir ce que dit cette économie de la donnée de notre rapport au pouvoir, à la liberté, à la démocratie. Une démocratie, faut-il le rappeler, n'a jamais été consultée sur ce nouveau marché qu'on a ouvert sans elle, en son nom. Et c'est ce que nous explorerons dans le prochain épisode de Tous Traqués. Merci de nous avoir suivis. Merci Vincent.
Merci Emmanuel.
À très bientôt.
C'était Tous traqués, une série d'Emmanuel Darle, société de contrôle quand le pouvoir change de visage. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.